Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Très heureuse de vous accueillir. Tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Eh bien, nous allons commencer par la neutralité carbone en France d'ici une trentaine d'années. Possible ou pas? Oui, répond une étude, mais avec du nucléaire. Les détails dans un instant.
Emmanuel Macron dans la Loire, bain de foule, 800 millions d'euros promis pour développer la robotique, comme un air de campagne électorale. L'arrestation au Maroc d'un gros bonnet de la drogue français. Et puis l'enquête sur le tir mortel d'Alec Baldwin, il s'entraînait à dégainer son arme.
Et puis ce sera Philippe Juvin qui sera notre invité exceptionnel dans un instant pour le grand oral de Punchline. Tout de suite, un mot sur la tendance météo avec vous Marlène Dulray. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Beaucoup de grisaille demain matin. Le soleil fera des apparitions en journée, mais on a parfois de mauvaises surprises à cette période de l'année. Météo complète à la fin du journal.
Europe 1. Énergie renouvelable ou nucléaire, les deux, mon général, les deux seront nécessaires pour produire notre électricité et parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050.
Et oui, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, vient en effet de présenter ses préconisations. Résultat, Maud Descamps, il est possible d'atteindre la neutralité carbone à des coûts acceptables, mais à une condition, et pas des moindres, en conservant une part de nucléaire.
Oui, d'un point de vue strictement économique, il est plus intéressant de s'appuyer sur un mix énergétique qui comprend à la fois des énergies renouvelables et du nouveau nucléaire. Mais attention, hein, RTE souligne qu'un scénario avec 100% d'énergie renouvelable est tout à fait possible. Son coût est juste plus élevé. Dans tous les cas, il est indispensable de développer les énergies renouvelables, souligne Thomas Vérinck de RTE.
Le fait que les énergies renouvelables sont indispensables est l'un des enseignements majeurs. Je vous rappelle qu'on a aujourd'hui 60% de notre consommation d'énergie qui vient des énergies fossiles et qu'en 2050, ça doit avoir complètement disparu. Et donc, on va devoir augmenter la consommation d'électricité. Et pour augmenter la consommation d'électricité, il y aura de toute façon des énergies renouvelables dans notre bouquet électrique.
Il va donc falloir électrifier massivement nos usages, que ce soit dans le secteur des transports, du chauffage ou encore de l'industrie, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. RTE estime que les besoins en électricité vont augmenter de 35% d'ici 2050.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1, on vient de l'apprendre, l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, va investir plus d'1 milliard de dollars pour l'environnement, annonce à quelques jours du début de la COP26 en Écosse. Puisqu'on parle énergie, un mot sur les prix des carburants. Ils se tassent après avoir atteint des sommets. Le gazole est quand même toujours très élevé, en moyenne à 1,5531 €, le sans-plomb 95 à 1,64 €. Dans la série des prix qui grimpent, certains boulangers pourraient augmenter le prix de la baguette de 5 ou 10 centimes. Dixit, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie, en cause la hausse des prix du blé et de l'énergie. Décidément, on y revient.
Plus d'une trentaine de déplacements au compteur depuis la fin août. Emmanuel Macron était aujourd'hui dans la Loire pour vanter les mérites du plan d'investissement 2030.
Le président était tout à l'heure dans le centre-ville de Montbrison. Juste avant, il visitait l'entreprise Siléane à Saint-Étienne, spécialisée dans la robotique. Un déplacement qui a vraiment des airs de pré-campagne, Jacques Serret.
Oui, c'est debout, micro à la main, au milieu de l'entrepôt de cette entreprise que le chef de l'État s'est adressé à la centaine d'employés.
Vous êtes au cœur du futur de notre industrie. On pourra réindustrialiser la France grâce aux transformations auxquelles vous contribuez. On ne va pas réindustrialiser la France en redéveloppant l'industrie qu'on connaissait il y a 20 ans ou 30 ans. La nostalgie n'est pas de bonne conseillère. On va le faire en développant une industrie qu'on est en train d'inventer, de transformer, mais où il y a beaucoup plus de valeur ajoutée.
Emmanuel Macron, à la fois président et VRP de son propre plan France 2030, annonce un chèque de 800 millions d'euros consacré au secteur de la robotique. Quelques heures plus tard, changement de décor pour le locataire de l'Elysée, pas encore candidat. Déambulation et bains de foule dans le centre-ville de Montbrison. Accueil en fanfare, vous l'entendez derrière moi, serrage de main par dizaines et remise des insignes de l'Ordre National du Mérite à la figure locale, le chocolatier François Pralu, avec au passage une petite phrase qui n'a rien d'anodine. « Quand les vents mauvais reviennent, on voudrait nous faire croire que ce que nous sommes, ça serait du rétrécissement », dit Emmanuel Macron avant de poursuivre. « Nous sommes des valeurs de travail, de mérite et de générosité ». Alors du côté de l'Elysée, on assure que le président n'est pas en campagne. C'est tout de même de plus en plus difficile à croire.
Jacques Serret à Saint-Étienne pour Europe 1.
Sofiane Ambly, c'est le nom de ce baron français de la drogue qui vient d'être arrêté au Maroc.
Oui, il était en cavale depuis plus de 7 mois. Il a été retrouvé vendredi dernier dans une clinique de Tanger où il était soigné après une agression. Originaire de Mulhouse, il est à l'origine du scandale de l'ex-office antidrogue dont il était l'indic. Il aurait aussi organisé un important trafic. C'est donc un gros poisson, Gladys Lafitte.
Oui, il est connu pour avoir été l'indicateur de l'ex-chef de l'office anti-stupéfiants aux pratiques controversées, un personnage clé dans l'affaire qui a fait tomber le commissaire. Mais à 46 ans, Sofiane Ambly est surtout soupçonné d'être impliqué dans un autre dossier. Il aurait touché 2 500 000 euros pour organiser l'importation de plus de 4 tonnes de cannabis en France, ce qu'il conteste. Il ne s'était pas présenté à la justice qui voulait le placer en détention provisoire, d'où cette nouvelle cavale. C'est pour lui une habitude. Cette fois, c'est donc au Maroc qu'il a été retrouvé dans une clinique où il a été admis vendredi dernier pour une blessure par sabre au visage. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un règlement de compte. Sofiane Ambly avait de faux papiers allemands, mais il a été confondu par ses empreintes digitales. Surnommé la chimère, il faisait l'objet de ce qu'on appelle une notice rouge d'Interpol. Pour l'instant, il n'est pas en état d'être arrêté à proprement parler puisque son pronostic vital est réservé, mais dès que cela sera possible, une demande d'extradition sera formulée par la France, un énième épisode de la saga Ambly, m'a confié un enquêteur.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
On va maintenant prendre, Hélène, des nouvelles de la pilule anti-Covid. Alors que le nombre de cas repart, l'Agence européenne des médicaments lance l'examen accéléré du médicament du laboratoire américain Merck.
Oui, le molnupiravir, c'est son nom. Il pourrait avoir un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, comme l'explique le professeur Gilles Pialoux, infectiologue à l'hôpital Tenon.
L'intérêt du molnupiravir, c'est d'être ce qu'on appelle un antiviral direct, c'est-à-dire qu'il inhibe la multiplication du virus à l'intérieur de l'organisme. Et quand on regarde les décès en comparant le groupe qui a pris le placebo et le groupe qui a pris la molécule active, on a une diminution de 50% de ce qui est le critère qui a été retenu dans cette étude, c'est-à-dire soit l'hospitalisation, soit le décès. Donc c'est des résultats très encourageants, c'est des résultats préliminaires qui n'ont pas encore été publiés, mais qui ont été suffisamment importants pour que l'Agence européenne décide d'accélérer le processus d'évaluation du dossier de cette molécule. L'idée n'est pas du tout d'imaginer que les traitements vont remplacer le vaccin. C'est en plus dans un secteur qui était passablement pauvre. Et là, on a quelque chose qui va avoir un impact sur ces formes en ville, ambulatoires, enfin qui concerne énormément de gens, et probablement beaucoup plus qu'on ne le croit, puisque par définition, ce n'est pas forcément des gens qui rentrent dans le système de soins, en tout cas dans le système hospitalier.
Le professeur Pialoux, joint par Afsaneh Sabouy, concernant le vaccin, comme Pfizer Moderna annonce des résultats positifs chez les enfants de 6 à 11 ans, les deux vaccins pourraient être prochainement autorisés aux États-Unis pour cette tranche d'âge.
Direction les États-Unis à présent, justement avec cet accident mortel sur le tournage d'un film avec Alec Baldwin. On commence à en savoir plus, Hélène.
Oui, la directrice de la photographie a été tuée par balle, le réalisateur blessé lors du tournage d'un western intitulé Rust. Alexis Guilleux, de nouveaux témoignages viennent éclairer les circonstances de ce drame, notamment celui du réalisateur.
Oui, au moment du drame, Joël Souza se tenait à côté de sa chef opératrice pour vérifier l'angle de la prise de vue. L'équipe répétait une scène dans une église dans laquelle Alec Baldwin, assis, dégainait son arme et la pointait vers la caméra. Le réalisateur dit avoir entendu un coup de fouet puis un gros pan. Alina Hutchins a alors commencé à tituber en se tenant la poitrine et Joël Souza a remarqué que lui saignait de l'épaule droite. Tout le matériel de cette scène avait été préparé avant une pause déjeuner et le réalisateur a confié aux enquêteurs ne pas être certain que le pistolet ait été de nouveau vérifié au retour de l'équipe. L'enquête se concentre donc sur deux personnes, l'armurière, responsable de la sécurité des armes à feu sur le plateau, et l'assistant réalisateur, l'homme qui a tendu le pistolet à Alec Baldwin en lui précisant qu'il n'était pas chargé. À propos de l'ambiance au sein de l'équipe, Joël Souza assure que tout le monde s'entendait bien, même si on sait que la production avait pris du retard et qu'une demi-douzaine de personnes avaient démissionné à cause des conditions de sécurité et de problèmes de paiement. Dans un autre témoignage, un caméraman présent sur le plateau assure qu'Alec Baldwin était très précautionneux lors du maniement des armes, lors de scènes enregistrées depuis le début du tournage.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Un peu de musique maintenant. Vous allez reconnaître la voix d'Angèle. La chanteuse vient de sortir le premier extrait de son nouvel album « Bruxelles, je t'aime, ode à sa ville natale » comme elle l'explique au micro de Stéphanie Loire.
Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime.
Cette chanson, elle est née il y a quelques mois quand je me suis retrouvée loin de Bruxelles, une fois de plus. Moi qui avais passé 3 ans en tournée dans le tourbus, là je me suis retrouvée confinée. Je rentre chez moi de nouveau et cette chanson m'est venue parce que j'avais beaucoup mes amis au téléphone qui me racontaient comment ils vivaient cette période-là de leur côté. Et puis j'avais déjà cette mélodie qui était déjà un peu présente et voilà. Et j'ai écrit, puis petit à petit elle s'est construite comme ça. J'avais envie de faire une déclaration d'amour. Je trouve que les chansons sur les villes, elles sont toujours touchantes parce que même quand c'est pas la nôtre, on comprend le principe quoi, de sentir parfois loin de chez soi ou d'avoir besoin de déclarer son amour à une ville. ville, mais donc aussi aux gens qui s'y trouvent, quoi.
Angèle qui aime sa ville Bruxelles. Pour l'album, il va falloir patienter encore 6 semaines.
Et on va faire un point sur la météo avec vous, Marlène Duret. Marlène, beaucoup de grisailles demain pour débuter la journée.
Oui, grisailles, nuages bas, brouillard, en cause des conditions anticycloniques et puis l'humidité encore présente dans la masse d'air. C'est vraiment le genre de situation où la grisaille peut vraiment persister. On est sûr de rien, en tout cas. Matinée nuageuse partout avec, oui, parfois quand même quelques éclaircies. Un risque d'averse dans les départements côtiers de la Manche et dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis la perturbation d'aujourd'hui qui va arroser encore faiblement juste la matinée. Alors la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne Franche-Comté, l'Est de l'Auvergne, le Lyonnais, mais l'après-midi, on n'en parle plus. Ce sera vraiment le retour d'un temps sec et variable dans toutes ces régions. Et puis, il y aura quand même quelques chanceux qui bénéficieront d'un temps très ensoleillé. Les Pyrénées, l'ensemble des Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pourtour du Golfe du Lion. Et pour ce qui est des Pyrénées et des Savoies, là, le ciel aura tendance à bourgeonner l'après-midi. Les températures de fin de nuit sont plutôt douces dans l'ensemble. Les maxis en journée afficheront au gré des apparitions du soleil entre 13 et 18 degrés, 13 en Moselle, 15 à Lille et Strasbourg, 16 à Paris, 17 au Mans, ainsi qu'à Lyon, 18 à Nantes, La Rochelle, Agen, Montélimar. Il fera localement 19, 20 degrés près des Pyrénées et puis une belle douceur se maintiendra près de la Méditerranée avec 20 à 23 degrés.
Merci beaucoup Marlène Duret, merci Hélène Zélani. On se retrouve demain à 19h pour les journaux. D'ici là, bien sûr, restez sur Europe 1. Dans un instant, Philippe Juvin est l'invité du grand oral de Punchline. À tout de suite.